Bonjour tout le monde. Vous allez bien ce matin? Alors, il y a beaucoup de gens qui sont revenus au travail. J'espère que la semaine n'a pas été trop pénible pour ceux qui sont revenus au travail. Pour ceux qui reviennent de vacances, ben, j'espère que vous êtes en forme, que vous êtes bien reposés. Et sincèrement, ce matin, ce qu'on fait, c'est qu'on finit notre série sur le livre des Proverbes, série sur le thème de la sagesse qu'on avait intitulé « Lorsque la parole est d'argent ». Mais que le silence est d'or. Alors, au cours des trois dernières semaines, on a vu comment d'une certaine manière, la personne de Dieu incarne et personnifie la sagesse. Comment, à travers la personne de Dieu, la sagesse a été déployée sur son Fils. Et comment ce Fils nous a scellés également de son esprit pour pouvoir nous-mêmes accéder à la sagesse de Dieu. Et on avait pris un peu ce titre-là, je ne sais pas si vous vous souvenez de pourquoi exactement. On avait vu que pour accéder à une certaine forme de sagesse dans le monde dans lequel on vit, on a vu qu'on peut accéder à toutes sortes de sagesse par l'expérience qu'on vit, l'expérience des autres, ce que les épreuves nous amènent ou parfois de nos expériences personnelles. Il y a moyen d'écouter ce que la vie nous amène un peu comme chemin. Et d'être sensible à ce qui se passe autour de nous, c'était une manière d'accéder à une certaine forme de sagesse. Et on avait un peu dit, ça c'est un peu comme la parole qui est d'argent. Donc on peut accéder à une sagesse à travers ça, mais à la base, on a vu que même si on peut accéder à une sagesse de cette manière-là, jamais, jamais cette sagesse-là ne pourra atteindre celle que l'on peut avoir à travers notre rapport, notre relation, notre contact avec Dieu, qui souvent se fait dans le silence. On vit dans un monde troublé et parfois on peut avoir l'occasion de dire qu'est-ce qui est sage? Qu'est-ce qui est sage dans le monde dans lequel on vit? Et parfois on peut avoir l'impression qu'il n'y a pas de maître qui dirige tout ça. Mais oui, il y a un maître qui dirige tout ça, ce monde troublé dans lequel nous vivons. Et on a besoin de cette sagesse dans notre rapport avec Dieu parce que non seulement Dieu est capable, et la personne de Jésus, de nous parler de cette sagesse, mais il en est l'incarnation. Il en est la personnification. Et on a vu que, notamment, je ne sais pas si vous vous souvenez d'illustration de la brassée de lavage, hein, on avait vu que quand on mêle du noir puis du pâle ensemble dans une laveuse, ben, le noir va déteindre sur le pâle. Eh bien, Dieu, dans son même rapport avec nous, dans l'eau froide ou chaude de la vie, il veut mettre sa marque sur chacun de nous. Et parmi cette marque-là fait partie le principe de la sagesse. Il veut mettre sa sagesse à travers nos décisions. Mais également, on a vu au cours des trois dernières semaines, au niveau de notre maîtrise de nous-mêmes, la semaine passée, on a vu comment la sagesse veut développer envers nous l'amour du prochain. Et cette semaine, ce qu'on va voir, c'est quoi le lien qui existe entre la sagesse de Dieu et l'usage approprié des paroles que j'emploie. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous mettre un pied dans la bouche? Pas au sens littéral du terme, là. Parce que ça, c'est plutôt difficile, là. À moins que vous ayez une grande bouche. Mais, aux manières figurées, je me souviens régulièrement dans ma vie, je me suis mis un pied dans la bouche à travers différentes situations. Je me souviens, à un moment donné, il n'y a pas très longtemps de ça, je rencontre ce qui me semblait être un couple. Alors, je dis bonjour à la dame et je souhaite la bienvenue à l'église, tout ça. Et là, je voyais qu'il y avait un homme à côté, mais qui était plutôt discret. Et je dis, « Est-ce que c'est votre conjoint? » Il dit, « Non, c'est mon fils. » Oh! Là, je voulais mettre en dessous du plancher, comprenez-vous, puis c'était pas encore assez bas pour... C'était pas une parole très sage. C'était pas une... Disons que j'aurais pu deviner, mais bon, c'était de quoi? C'était un peu à prendre au dépourvu. Mais, d'une certaine manière, je me suis mis un pied dans la bouche à ce moment-là. Et une des choses qui est intéressante à travers nos paroles, et c'est un peu ce que nous dit le livre des Proverbes, c'est que si on veut résumer la pensée du livre des Proverbes dans l'ensemble, au niveau de l'usage de la parole, voici ce qu'on pourrait dire. L'usage de la parole est un véritable dilemme pour l'être humain. La langue peut causer autant de bien que de tort par les mots qu'elle articule, et la sagesse de Dieu, par la grâce de l'Évangile, nous conduit à en faire un usage approprié. Vous comprenez bien l'idée ici? C'est que par notre langue, par les mots qu'on utilise, on peut faire autant de bien que de mal. La manière que le livre des Proverbes nous présente l'usage de la parole, c'est qu'on peut faire autant de tort que d'amener même de bien dans la vie de quelqu'un d'autre. Donc, les mots qu'on utilise ont à la fois beaucoup de valeur et parfois, ils en ont beaucoup moins. Ça, c'est un principe assez clair dans le livre des Proverbes. On peut voir quelques exemples. Toujours tiré de la version français courant qu'on utilise depuis le début de la série. Alors, voici ce que nous dit les versets. On peut passer à l'image suivante. Alors, le Proverbe 10, verset 20, nous dit « Les paroles d'un homme juste valent l'argent le plus pur. Ce que pense un méchant ne vaut pas grand-chose. » Alors, la parole, c'est soit tout ou rien. « Une réponse aimable apaise la colère, mais une parole brutale l'excite. Quand un sage parle, il donne envie de s'instruire, mais la bouche des sots répand la bêtise. » Les paroles de l'homme peuvent être profondes ou dangereuses comme l'océan, vivifiantes comme un torrent et source de sagesse. Les paroles peuvent être source de vie ou de mort. Qui aime parler doit en accepter les conséquences. Alors, dans les quatre versets ou les quatre passages qu'on vient de voir, on voit vraiment ici qu'il y a comme une espèce de paradoxe dans les paroles qui sortent de notre bouche où est-ce qu'on peut causer autant de bien que de mal. Et ce qu'on voit ici, c'est que d'une certaine manière, il faut être conscient que dans notre rapport personnel avec les autres, nos paroles ont une incidence. Nos paroles ont un impact. Et d'une certaine façon, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a du ménage à faire dans les paroles qu'on peut faire. Parce que j'imagine que vous ne voulez pas faire de tort aux gens qui vous entourent avec vos paroles. Même si on n'en est pas conscient, on fait du tort. Et parfois même, quand on n'est pas conscient, on fait du bien. Et voici ce que nous dit le Proverbe 20, verset 5. Juste pour faire un peu un wrap-up de tout ça, « Les pensées de l'homme sont cachées comme des eaux souterraines. Une personne intelligente sait les faire apparaître. » Donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'en dedans de nous, il y a toutes sortes de pensées qui peuvent émaner en paroles, qui peuvent aller dans un sens comme dans l'autre du spectre de la moralité. On a vu au début de la série que Dieu se définit comme l'intelligence elle-même. Dans la première prédication, le premier exposé, on avait vu que Dieu est la personnification de l'intelligence. Donc ici, quand on dit une personne intelligente, c'est la faire apparaître, bien ce qu'on voit, c'est que l'être humain ne peut pas être son propre point de référence par rapport à ce qui est disable et ce qui n'est pas disable. Le philosophe Francis Schaeffer dit que lorsque l'homme est son propre point de référence, c'est une aberration philosophique. On vient de quelque part. Et si je m'arrête à moi-même, si je m'arrête à qui je suis pour évaluer qu'est-ce qui se dit, bien, qu'est-ce qui se dit pas, bien, ça, c'est très subjectif. Alors, quelqu'un peut dire quelque chose puis trouver que ça a bien de l'allure, puis moi, je peux trouver que ça n'en a pas. À ce moment-là, qui a raison si je suis mon propre point de référence? Alors, c'est dans ce sens-là qu'on a besoin d'un rapport autre que nous-mêmes pour évaluer si nos paroles peuvent être appropriées ou non au niveau de la sagesse. L'être humain a nécessairement besoin d'un être suprême qui sache lui indiquer la voie à suivre au niveau de la sagesse. Parce que la sagesse ne nous habite pas. Ce que le livre des Proverbes nous dit, c'est que la folie est attachée à notre cœur dès l'enfance. Les parents, vous savez très bien de quoi je parle. On peut se poser par contre la question, sur quoi repose ici cette intelligence que le Proverbe 20 nous dit? Qu'est-ce qui fait de moi quelqu'un qui peut puiser dans mes pensées pour en faire sortir des paroles sages, des paroles appropriées? Qu'est-ce que le livre des Proverbes nous dit au sujet de la sagesse et son lien avec les paroles qui sortent de ce petit orifice qui s'appelle la bouche et qui peut faire autant de bien que de mal? Eh bien, ce que le livre des Proverbes nous dit, c'est la première chose, le premier principe que le livre des Proverbes nous lance au niveau des mots qu'on emploie, c'est que nos mots ont une portée souvent plus grande que l'on croit. Nos mots ont souvent une portée plus grande que l'on croit. Que ce soit une blague anodine, une remarque un peu douteuse, un simple commentaire sans prétention, ou même un petit encouragement, juste comme ça en passant, nos mots ont un impact plus grand que ce que l'on croit. Les mots qu'on utilise ont un pouvoir qui peut être bénéfique ou qui peut être néfaste. Et souvent, c'est sans même qu'on en soit conscient ou non. Voici quelques exemples qu'on retrouve dans le livre des Proverbes. Au chapitre 10, « Les paroles d'un homme juste profitent à beaucoup. » tandis que les imbéciles meurent parce qu'ils ont la tête vide. L'homme de mauvaise foi détruit les autres par ses paroles, mais les justes sont préservés par leur expérience. Qui bavarde à la légère blesse autant qu'une épée. Les paroles des sages apportent la guérison. Une parole réconfortante est comme un arbre de vie. Une parole cruelle est démoralisante. Ce qu'on voit ici, c'est que les mots qu'on emploie, les mots qui proviennent de nos pensées, qu'on le veuille ou non, ont une incidence sur la nature de nos relations avec les autres. La semaine passée, on a parlé de comment je pouvais aimer mon prochain. Comment je peux lui vouloir du bien. On avait vu qu'aimer son prochain, ce n'est pas nécessairement avoir de l'affection pour quelqu'un qui n'est pas aimable, c'est simplement désirer son bien. Eh bien, comment ça peut s'incarner au niveau des paroles? Eh bien, ce qu'on voit, c'est que, premièrement, je dois être capable d'utiliser mon rapport avec Dieu sur, OK, comment faire du ménage dans mes pensées? Parce que mes pensées, à un moment donné, vont se projeter en paroles et elles peuvent faire aussi bien que du mal. Comment est-ce que je peux, d'une certaine manière, être sage au niveau des paroles que j'emploie? Je vous donne un exemple très simple. J'ai une petite fille qui s'appelle Florence. Florence a 8 ans. Petite fille hyper enjouée, toujours joyeuse et qui s'exprime vraiment aisément. À quelques reprises, là, Yannick, quand il est en avant avec les enfants puis qu'il y a une question à poser, est toujours la première à lever la main. Moi, je veux parler, j'ai quelque chose à dire. Et une des choses qui m'a toujours fasciné chez Florence, c'est sa voix. Elle a une petite voix flûtée, vraiment semblable à un dessin animé. Tu sais, il y en a parmi vous qui connaissent Minnie, là. Tu sais, la petite voix comme ça, là. Puis, ah, papa, aujourd'hui, je suis bien contente. Puis, une des choses, moi, ça me fascine de l'entendre parler. Puis, à un moment donné, j'ai commencé à jouer avec elle, dans le sens que, moi aussi, je me suis mis à lui parler en cartoon un peu. C'est « Allô Florence, comment ça va ce matin? Ah oui, moi aussi, je suis contente de te voir. » Au début, elle trouvait ça bien drôle, tu sais, parce que c'est sa voix naturelle, elle a 8 ans. À un moment donné, elle trouvait plus ça drôle. Elle trouvait plus ça drôle parce qu'elle pensait que je me moquais d'elle. Pensez-vous vraiment que c'était mon intention de me moquer d'elle? Mais pas vraiment. Moi, je voulais juste avoir du plaisir avec elle, plaisanter avec elle, puis faire des blagues comme ça. Puis, à un moment donné, je voyais que ce que je lui disais, puis surtout le ton que je prenais pour lui dire les choses, ça la blessait. Parce que c'est comme si elle apprenait ça comme je voulais me moquer d'elle. Et quand j'ai appris ça, pensez-vous que j'ai changé, essayé de changer de ton avec elle? Bien, parfois, je lui parle encore en cartoon, puis là, elle me rappelle à l'ordre dans ça. Papa, t'oublies-tu ce que je t'ai demandé? Oui, c'est vrai, ma grande, excuse-moi. Je dois apprendre à corriger le tir. Je dois apprendre à corriger le tir. Donc, voyez-vous comment nos paroles, parfois, ont un impact plus grand dans la vie de quelqu'un. Et là, c'est un point de vue négatif, mais l'inverse est également vrai. L'inverse est également vrai dans le sens qu'une parole peut avoir, parfois, sans qu'on se l'attende, un impact super positif dans la vie de quelqu'un alors qu'on ne s'y attend même pas. Et moi-même, j'étais le bénéficiaire de ça. Je me souviens, il y a une couple d'années de ça, ça fait plusieurs années quand même, j'étais à l'église de Rosemont. Et puis, il y en a parmi vous qui connaissent M. Michel Habib. Il y en a parmi vous qui le connaissent. C'est un homme qui est beaucoup impliqué dans l'association. Et c'est lui qui amenait la parole. Et à un moment donné, dans son exposé, voici ce que M. Habib a dit. Il a lu un texte qui dit dans Luc chapitre 10, verset 2. Il a lu le passage suivant. « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des maîtres dans la moisson, dans le sens de prier que le Seigneur envoie des gens dans le monde troublé dans lequel on vit pour parler de l'Évangile et s'occuper de son Église, de travailler, aimer l'Église, être un berger pour l'Église. » Et Monsieur Habib, je ne lui ai jamais dit, il ne sait pas, mais à ce moment-là, j'avais lu ce verset-là des centaines de fois, mais ce soir-là, je ne sais pas pourquoi, ça m'est rentré dedans comme une tonne de briques. Et c'est vraiment à ce moment-là que le Seigneur m'a dit, il dit, écoute, Miguel, dis-là, je veux faire quelque chose avec toi. Ça fait des années, là, j'étais en train de te construire, mais là, c'est le temps. Là, c'est le temps et c'est la raison pour laquelle je suis devant vous ce matin, que j'ai le privilège, la grâce d'être un pasteur dans cette merveilleuse église. C'est qu'à ce moment-là, M. Habib a parlé de ce verset-là et sans même qu'il s'en rende compte, Dieu l'a utilisé, mais sans qu'il s'en rende compte, peut-être d'une manière aussi grande qu'il l'a, peut-être l'avait envisagé. Donc, d'une façon ou d'une autre, nos paroles ont une incidence souvent insoupçonnée. Insoupçonnée. Nos paroles ont un pouvoir immense. Et ce que ça nous dit, c'est que la sagesse, à ce moment-là, dans notre rapport avec Dieu, et évidemment qui se répercute avec les autres, c'est d'y être extrêmement attentif. Parce que ces paroles ont un pouvoir. Regardez, par exemple, ce que l'apôtre Paul nous dit. Éphésiens, chapitre 5, versets 1 à 4. Et là, le début du passage est super important. « Puisque vous êtes les enfants que Dieu aime, efforcez-vous d'être comme lui. » Donc ici, là, Paul parle à des gens qui connaissent déjà l'Évangile. Il parle à des gens qui sont déjà sauvés par grâce. Il parle à des gens qui ont cru dans la mort et la résurrection de Jésus pour être nés de nouveau, avoir une nouvelle identité personnelle et devenir des enfants de Dieu. Il dit ça à des gens qui sont déjà à lui. Et voici qu'est-ce qu'il leur dit. « Que votre façon de vivre soit inspirée par l'amour, à l'exemple du Christ qui nous a aimés et a donné sa vie pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur L'agréable odeur plaît à Dieu. Vous appartenez au peuple de Dieu. Par conséquent, il ne convient pas qu'une forme quelconque d'immoralité, d'impureté ou d'envie soit même mentionnée parmi vous. Il n'est pas convenable non plus que vous prononciez des paroles grossières, stupides ou sales. Adressez plutôt des prières de reconnaissance à Dieu. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, parce que moi, ça m'arrive régulièrement, de dire des paroles inconsidérées? Ça m'arrive de m'en vouloir pour des mots qui m'ont échappé, pour quelque chose que j'aurais pas dû dire, mais ah, ben c'était une blague. Ben oui, mais c'était une blague qui était douteuse. Attention à nos paroles. Si on appartient à l'Évangile, nos paroles doivent respirer cet évangile. Et Dieu se prend un plaisir fou à voir dans nos paroles le sens qu'elles peuvent avoir, autant dans le côté positif que dans le côté négatif, et d'être sensible à ce qu'on dit et à la personne qu'on dit. Bien sûr, c'est sûr qu'à un moment donné, on n'a pas le pouvoir de gérer l'effet que nos paroles puissent avoir sur quelqu'un d'autre. Je ne peux pas gérer le fait qu'une personne puisse être blessée par une parole franche ou honnête que je lui ai dit. Mais on a une nécessité de prendre soin les uns des autres et d'être sensible à ce que nos mots peuvent faire germer dans l'esprit de quelqu'un d'autre. Je n'ai pas le pouvoir, par exemple, que ma petite fille qui se sentait un peu... que je riais d'elle lorsque je lui parle en cartoon, je n'ai pas le pouvoir de changer la manière dont elle interprète ce que je lui dis. Mais il y a une chose que je peux faire. Je peux être plus sensible à la situation dont elle me parle. Et c'est à ce niveau-là que le livre de Proverbes nous invite à considérer que nos mots ont souvent une plus grande portée que ce que l'on veut bien croire ou que ce que l'on pense. Évidemment, le livre des Proverbes ne s'arrête pas là. Le deuxième principe qu'il nous donne, c'est que le livre des Proverbes nous indique également que les mots qu'on utilise ont une portée limitée. Il y a des choses que nos paroles ne peuvent pas faire. Par exemple, qu'est-ce que nos paroles ne peuvent pas faire? Bien, nos paroles ne peuvent pas se substituer ou remplacer les bienfaits de l'action, par exemple. On lit dans Proverbes chapitre 12, verset 24, « Des mains actives procure le pouvoir, mais la nonchalance mène à l'esclavage. » Donc, ce qu'on voit ici, c'est que nos paroles qu'on utilise ne peuvent pas se substituer à l'action. Il y a des choses que nos paroles ne peuvent pas faire. Il y a des choses que nos paroles ne peuvent pas produire. Et une de ces choses-là, c'est que nos paroles ne peuvent pas produire ce que nos mains, nos pieds ou notre cœur peuvent faire. Il y a un proverbe africain qui dit ceci. « L'oiseau qui chante ne sait pas faire son nid. » L'oiseau qui chante ne sait pas faire son nid. Mais c'est sûr, il passe son temps à chanter. Donc, il oublie l'essentiel de construire un milieu où est-ce qu'il puisse permettre de chanter un peu plus longtemps. D'une certaine manière, souvent dans nos paroles, on oublie souvent que si l'action n'est pas liée au principe de la parole, je peux bien dire à un frère ou à une sœur que je l'aime, va en paix. Hein, t'as pas de nourriture dans ton frigidaire, je vais prier pour toi. Mes paroles là, vont être sa sœur, Seigneur, remplis le frigidaire de cette sœur ou de ce frère-là. Mais s'il y a personne pour l'aider à remplir le frigo, comprenez-vous que nos paroles à ce moment-là, oui, je les révèle devant la gloire de Dieu, mais Dieu va servir de l'action de quelqu'un pour remplir ce frigo-là. Et Jésus l'avait bien dit aux pharisiens. Hein? Où est-ce que les pharisiens disaient, « Ah, est-ce que j'aurais pu assister ma mère ou mon père? » Bien, c'est une offrande maintenant, donc j'en ai les mains lavées. Et qu'est-ce que Jésus disait à ces gens-là? Vous êtes des hypocrites. Vous êtes des hypocrites parce que vos paroles à ce moment-là deviennent un prétexte pour ne rien faire. Nos paroles ne peuvent pas substituer l'action. Nos paroles ne peuvent pas non plus être suffisantes pour refléter totalement la pensée de Christ. Si ma vie est radicalement tournée vers l'Évangile, automatiquement, mes paroles vont être en lien avec mes actions. Jésus, dans les évangiles, a nourri des milliers de gens. Oui, il a proclamé un message, il a parlé de la foi, il a parlé de la repentance, il a parlé de toutes sortes de choses. Il a parlé de la grâce, il a parlé de l'amour du prochain, mais il a aussi agi envers l'autre. Il nous a fait connaître son Père à travers ses paroles, mais également à travers ses actions, à travers ses guérisons, à travers ses miracles. Il a révélé qui il était, le Fils de Dieu incarné. Et si j'ai cet esprit-là en moi aujourd'hui par la puissance de l'Évangile, bien, je ne peux pas m'absoudre de ce lien-là qu'il y a entre mes paroles et mes gestes. Donc, mes paroles, ce qu'elles ne peuvent pas faire, c'est qu'elles ne peuvent pas produire les bienfaits que l'action peut parfois amener. Une deuxième chose que nos paroles ne peuvent pas faire, c'est d'altérer les faits. Chapitre 18 de Proverbes, verset 8, nous dit ceci. « Les calomnies sont comme des friandises. Elles s'insinuent jusqu'au fond de soi-même. » Ce que le passage dit ici, c'est que lorsque quelqu'un est blessé, est meurtri d'une certaine manière, qui sent blessé, ça descend dans lui. Ça a un effet dans lui. Avez-vous déjà parlé à quelqu'un qui est profondément blessé? Quelqu'un qui est profondément meurtri, qui est en colère, qui est en amertume, qui cherche à se venger, quelqu'un qui est complètement détruit par une situation, soit un deuil, une situation d'emploi qui n'est pas facile, quelqu'un qui en arrache dans la vie. Avez-vous déjà essayé de consoler ce genre de personne-là? Il y a des choses que nos paroles ne peuvent pas faire. Parfois, on peut essayer de réconforter quelqu'un, puis nos paroles sont comme de l'eau qui glisse sur lui comme sur le dos d'un canard. C'est comme si, mais regarde, oui, je comprends que tu veux m'encourager, mais je souffre, comprends-tu? Ça me fait mal en dedans pour X raisons et tes paroles ne peuvent pas altérer le fait que je souffre. Souvent, ça m'est souvent arrivé dans le passé d'essayer d'encourager quelqu'un qui vivait un moment difficile, d'essayer de lui faire voir l'espoir. Puis des fois, je m'en voulais. De ne pas trouver les mots justes pour pouvoir essayer de consoler cette personne-là. À un moment donné, je me suis dit, il dit, écoute, Miguel, il y a des choses que tes paroles ne peuvent pas faire. Il y a des choses que tes paroles ne peuvent pas faire. Alors à ce moment-là, ben réjouis-toi avec la personne qui se réjouit et pleure avec celle qui pleure. Fais juste compatir avec elle. Elle n'a peut-être pas nécessairement besoin que tu lui parles, mais juste le fait de lui dire, écoute, je comprends que ce que tu souffres, ça fait vraiment du mal. C'est comme si c'était de l'acide qui coulait sur ta peau. Écoute, est-ce que tu me permets de prendre un peu de partager avec cet acide-là qui coule sur toi, puis d'en prendre un peu sur mon bras? Je vais souffrir avec toi. Sans utiliser les paroles. Nos paroles ne peuvent pas altérer les faits. Souvent, par exemple, quand quelqu'un va vivre une situation difficile, on peut avoir tendance à voir ça comme mineur. Comparativement à d'autres personnes, là, ce qu'a vu cette personne-là, c'est tellement rien. Peut-être qu'elle s'en fait pour un enfant qui a dit non, puis là, ça l'a détruit. Puis là, un enfant qui dit non, c'est comme dans la nature de l'enfant de dire non. Puis là, la personne est détruite, puis là, la personne, on essaie de la réconforter. Mais c'est comme, il y a des situations parfois où les gens sont détruits pour des situations anodines. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, c'est de dédramatiser la situation. Écoute, c'est pas si pire que ça. Puis je comprends, je pense qu'il y a une place pour ça, mais d'une certaine façon aussi, la personne souffre. Et ce n'est pas en dédramatisant la situation qu'on va connecter avec la douleur de la personne. Comprenez-vous? Il y a des choses que nos paroles ne peuvent pas faire. Et une de ces choses-là, c'est altérer les faits. Une autre chose que nos paroles ne peuvent pas faire, c'est forcer le consentement de quelqu'un. Voici ce que nous dit le Proverbe, Proverbe chapitre 29, verset 19. Ce n'est pas avec des paroles qu'on peut corriger un serviteur, car même s'il comprend ce qu'on lui dit, il n'obéira pas. Ce qu'on nous dit ici, c'est que même si parfois je peux avoir des paroles persuasives envers quelqu'un, ben je ne peux pas le forcer à suivre les indications que je lui ai données, comprenez-vous? Il vient un moment donné où nos paroles perdent de leur pouvoir, même si je suis extrêmement persuasif. Je vous donne un exemple. Depuis que je suis très jeune, j'ai toujours été ce qu'on appelle un amateur de croustilles. Les chips, là, j'aime ça. C'est encore vrai, là. Quand j'étais à la maison, adolescent et même plus jeune, il y avait des consignes très claires pour manger des chips et aller dans l'armoire. Premièrement, c'était après le souper. Tout le monde ensemble, et quand maman et papa le décidaient. Donc, il y avait des consignes très claires, puis je comprenais pourquoi que c'était comme ça. Comprenez-vous, il avait réussi à me persuader du bien fondé de respecter ces consignes-là. Est-ce que vous pensez que le fait de bien comprendre la logique de pourquoi je devais prendre des chips uniquement dans ces conditions-là m'ont forcé à le faire automatiquement? Mais non. Je me souviens à un moment donné avoir pris un de ces sacs-là en plein après-midi, l'avoir mangé au complet et caché en dessous du lit de mon frère le sac qui était vide. J'ai plus jamais recommencé. Vous savez pourquoi? Pas parce que mes parents m'ont convaincu que c'était pas bien de faire ça puis que leurs paroles étaient persuasives. C'est que j'ai été privé de chips pendant pratiquement 2 mois. Comprenez-vous que là, ça l'a forcé mon consentement. Et ce n'est pas leurs paroles qui ont forcé la chose, c'est la conséquence, le fait de joindre une action à la parole en tant que telle. Ça n'enlève rien à la pertinence de faire un usage approprié de ce qu'on dit, mais il ne faut pas oublier que malgré tout l'effort qu'on peut donner à faire un usage sage, il y a des limites à ce que le fruit de nos lèvres peuvent produire en termes de sagesse. Il y a des limites à ce que nos lèvres peuvent produire en termes de sagesse. Mais à ce moment-là, on peut se poser la question, Miguel, comment je vais arriver? Si mes paroles ont plus d'influence que ce que je pense, puis qu'en même temps, ils sont limités, et où l'équilibre là-dedans? Où est-ce que je peux trouver cette sagesse-là que Dieu veut me donner dans mon rapport avec lui, avec moi-même, puis même avec les autres? Mon dernier point là-dessus, et c'est ce que le livre des Proverbes nous dit également, c'est que la beauté et la sagesse de nos paroles reposent sur la nature de leur caractère. La beauté et la sagesse de nos paroles reposent sur la nature de leur caractère. Un peu partout dans le livre des Proverbes, on nous dit de manière assez claire, c'est quoi des paroles qui sont imprimées de sagesse? Et voici ce que c'est des paroles imprimées de sagesse. Vous voulez savoir c'est quoi des paroles de sagesse dans le livre des Proverbes? Ce sont des paroles qui sont honnêtes. Ce sont des paroles qui sont franches. Ce sont aussi des paroles qui sont retenues et peu nombreuses. C'est des paroles réfléchies, c'est des paroles calmes. Lisez le livre des Proverbes, là, et vous n'avez pas besoin de moi pour ça. Vous êtes capable de savoir par quoi se définit des paroles qui sont sages. Toutefois, voici ce que le livre des Proverbes nous dit de manière générale sur la sagesse des paroles qu'on emploie. Proverbes chapitre 4, verset 23. Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. Donc, ici, on comprend que c'est quelque chose d'important, là. Ne laisse pas ta langue être fausse, ni tes lèvres prononcer des paroles trompeuses. Que tes yeux fixent les gens de bien en face. Regarde droit devant toi avec franchise. Réfléchis au chemin que tu vas prendre. Engage tes pas dans une direction sûre. Ne t'en écarte ni à droite, une petite faute ici à droite, ni à droite, ni à gauche. Tiens-toi éloigné du mal. Vous voulez savoir c'est quoi des paroles sages? Prends garde aux pensées qui sont en toi et tiens-toi éloigné du mal. Ce dernier passage est probablement celui qui reflète le plus la pensée de Jésus, notamment lorsqu'il dit dans Matthieu 12 que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, si je veux avoir des paroles de sagesse, ça passe automatiquement par l'endroit d'où viennent ces paroles-là, qui est centré dans le cœur. Et l'usage approprié et sage de la parole passe bien sûr par la mise en pratique de tout ce qui est inclus dans le livre des Proverbes. Mais si on se contente juste de poursuivre ce que les Proverbes nous disent qui est sage, si on prend ce que le livre des Proverbes nous dit ce qui est sage au niveau des paroles comme une recette de cuisine, on manque la cible. Si vous prenez le livre des Proverbes, puis que vous vous concentrez juste le fait de, OK, il faut que j'aie des paroles qui soient en air, il faut que j'aie des paroles qui soient un peu nombreuses, des paroles qui sont un peu réfléchies, vous allez accéder à une certaine forme de sagesse, à la parole qui est d'argent. Mais d'un certain côté, Dieu vous veut tirer beaucoup plus loin que ça. Ce que Dieu veut faire, ce n'est pas rechercher la sagesse des paroles juste pour être sage. Ce qu'on a vu dans les dernières prédications, les dernières exposés, c'est que Dieu veut nous marqué de sa sagesse parce qu'on le poursuit, lui. Pas juste sa sagesse, mais tout ce qu'il est. Et c'est dans mon contact régulier avec lui. C'est lorsque je fais du ménage dans mon cœur en fonction de ce que lui indique être sage, que là, la poursuite de l'obéissance et de ce que dit le livre des Proverbes prend tout son sens. Mais si je me contente juste de suivre le livre des Proverbes comme une recette de cuisine, à un moment donné, je manque le but. Je manque le but de mon contact personnel avec l'être qui incarne la sagesse. La sagesse de Dieu à la base, c'est d'alimenter nos paroles par le soin de ce qui se passe dans mon cœur. C'est là que le combat ultime de la sagesse se passe. Pas juste dans les mots qui sortent de ma bouche, mais des pensées qui sortent de mon cœur. Dans les pensées qui font parfois des tourbillons, des tsunamis, et qui parfois peuvent me mélanger complètement, de subir des émotions, d'avoir des envies de pulvérisation de quelqu'un parce qu'il m'a fait telle chose et comment ça va sortir dans mes paroles. Vous savez, Dieu s'est fait parole. Dieu s'est fait parole. On va tourner dans l'évangile de Jean, passage que vous connaissez probablement bien beaucoup d'entre vous. Voici ce que nous dit l'Évangile de Jean au chapitre 1. Évangile de Jean au chapitre 1. Au sujet de quelle manière Dieu s'est lui-même exprimé dans la parole. Au commencement de toute chose, la parole existait déjà. Celui qui est la parole était avec Dieu et il était Dieu. Il était donc Dieu, avec Dieu au commencement. Dieu a fait toutes choses par lui. Rien n'a été fait sans lui. Ce qui a été fait avait la vie en lui. Cette vie était la lumière des hommes. Certains l'ont reçu et ont cru en lui. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas devenus enfants de Dieu par une naissance naturelle, par une volonté humaine. C'est Dieu qui leur a donné une nouvelle vie. Vous vous souvenez au début de la Genèse, quand Dieu crée l'univers, qu'est-ce qu'il utilise pour créer? Mais c'est drôle, il dit et la chose est. Et ce qu'on voit, c'est que le principe créateur, c'est à travers la parole que ça passe. Dieu s'exprime, il dit quelque chose et la chose est. Et ce qu'on nous parle ici, c'est évidemment la personne de Jésus-Christ, qui a été la parole incarnée de Dieu, une parole qui s'est faite chair et qui a été parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et ce que nous dit la parole, c'est que si Dieu a créé l'univers, la vie, le principe de la vie à travers sa parole, et que ce monde-là est troublé aujourd'hui, et que je cherche la sagesse, je n'ai pas le choix d'aller vers sa parole incarnée, qui elle-même peut me faire naître. Parce que c'est ça que le passage dit. Il dit, c'est Dieu qui leur a donné une nouvelle vie à ceux qui l'ont reçue. Qui ont reçu qui? La parole. La parole qui est incarnée, le Fils de Dieu. Est-ce que dans ta vie, tu poursuis cette chose-là? Non seulement la sagesse de ce que je dois dire et pas dire, mais au bout du compte, poursuivre cet être fabuleux, incroyable, qui a déjà rempli toute sagesse pour nous. On l'a vu au début de la série de l'exposé, on a vu que Jésus est notre sagesse et que si je veux acquérir cette sagesse-là, je dois simplement aller vers lui avec un geste de foi, reconnaître qu'il est le maître de l'univers et qu'il a quelque chose à me dire et que ma job à moi, c'est d'écouter ce qui vaut la peine d'être entendu de sa part, de lui faire confiance, de dire, Seigneur, je ne sais pas ce qui est sage de faire, mais j'ai foi que toi, tu le sais très bien. Et je veux me remettre devant le pied de ta croix pour que tu m'apprennes à être sage dans mon rapport avec mon conjoint, d'être capable de dire à mes enfants, oui, la vérité, avec franchise et honnêteté, mais avec la douceur qui incarne la sagesse de Jésus-Christ. Quel est l'endroit ce matin où est-ce que Jésus t'invite dans tes paroles à lui ressembler comme un disciple qui fait des disciples? Hein, vous savez, au début de l'année, on se dénonçait ça comme cible en tant qu'Église. On veut devenir une communauté de disciples qui font d'autres disciples. On veut grandir et prendre de la maturité ensemble. On veut croire dans notre ressemblance à la stature parfaite de Christ. À travers mes paroles, là, qu'est-ce que je dois apprendre la personne de Jésus-Christ? Quel est l'endroit dans ma vie où je peux ressembler un peu plus à Christ? Est-ce que c'est dans le fait que j'ai tendance à trop parler? Est-ce que c'est dans le fait que je dis tout ce que je pense sans réfléchir? Est-ce que c'est le fait de ne pas parler alors que je devrais peut-être le faire? Est-ce que j'ai à grandir dans la douceur de mes paroles, dans le calme, dans les badineries, parfois, qu'on peut se permettre? Hein, des fois, c'est tellement drôle. On est dans un petit groupe, là, puis là, quelqu'un sort une badinerie, quelque chose qui... Comment, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser comme terme? Une plaisanterie douteuse, puis là, tout le monde rit jaune. Les gens rient, ils rient jaune. Qu'est-ce que ça apporte au discours, ça? Est-ce que vraiment Jésus-Christ a à gagner dans ma vie par ce que je viens de dire? Posez-vous la question. Je me pose sincèrement la question, puis souvent, ça, dans le sens que souvent je suis honteux parfois de certaines choses que je peux dire puis qui ne sont pas disables. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Christ ne m'accepte pas parce que mes paroles sont sages. Christ m'accepte parce que je lui fais confiance, que j'ai remis toutes mes fautes devant lui et que maintenant, le chemin sur lequel il veut que je progresse, c'est que, Miguel, je veux que tes paroles grandissent en sainteté et en sagesse parce que je t'ai déjà accepté de moi. Puis qu'il y a des gens autour de toi qui ont besoin de me voir, qui ont besoin de me voir en toi. Ils ont besoin de voir mes paroles de sagesse qui sortent de ta bouche. Notre monde a un besoin urgent de voir le maître qui est le nôtre à travers les paroles que l'on donne. Notre conjoint a besoin de ça, mon voisin a besoin de ça, mon patron a besoin de ça, mes enfants ont besoin de ça. Tout le monde qui m'environne a besoin de me voir comme quelqu'un, oui, qui est humble, qui est capable d'admettre ses torts, mais qui grandit également et qui évolue dans la manière dont la sagesse sort par mes paroles. Peut-être ce matin que tu te dis, écoute Miguel, il me semble que dans ma vie, je ne suis vraiment pas sa coche là-dessus. Il me semble que j'ai tellement besoin de cette sagesse-là que c'est trop haut pour moi, je ne peux pas y accéder. Bien, c'est là que le commencement de la montée commence. Quand on se fie non pas sur nous-mêmes, comme dit le Proverbe 4, pour accéder à cette sagesse-là, mais lorsque je dis au Créateur de l'univers, toi, tu es d'une sagesse incarnée à travers ton Fils Jésus. Et je conçois aujourd'hui que c'est à travers lui, en m'approchant de lui, en voulant simplement m'humilier devant lui et reconnaître que ce que je peux faire dans la vie, c'est dépendre de toi, c'est à ce moment-là que la sagesse entre dans ton cœur, que le ménage de tes pensées se font. Pourquoi? Parce que dans l'humilité, je vais aller dans la parole, je vais aller dans la prière pour requérir ce besoin de sagesse-là. Et Dieu prend plaisir à ça. Je vais le partager à mon petit groupe. Je vais le partager à un frère ou une sœur qui sont près de moi. Prie pour moi, j'ai besoin de cette sagesse-là. Je vous encourage les uns les autres. Si vous avez ce matin découvert quelque chose dans votre vie que vous avez besoin de sagesse dans vos paroles, partagez-le à quelqu'un à côté de vous. Soyez redevable avec quelqu'un et dites-lui, je te demande que dans un mois, tu viennes me revoir et tu me dises, « Hey, tu m'as partagé ça il y a un mois. » Comment ça va là-dessus? Qu'on soit des équipiers ensemble. C'est comme ça qu'est l'Église. Une communauté qui vit sagement les paroles qu'elle prononce dans un monde qui est troublé. Et notre monde a besoin de ça. De paroles qui sont sages, mais qui proviennent du Créateur de l'univers, qui a mis toute sagesse sur son Fils. On va se courber dans un moment de prière. Seigneur Dieu, on veut ce matin s'avancer vers toi pour te prendre au mot. On veut te prendre au mot, Seigneur, dans le sens que tu nous appelles à grandir dans ta sagesse. Tu nous dis dans ta parole que nous pouvons grandir à sagesse grâce à l'Esprit Saint que tu nous as donné. Tu as déployé toute ta sagesse à travers ton Fils qui est venu sur la croix. Tu as établi un plan divin pour le rachat de l'humanité qui était sous le joug de ta colère. Et ce Fils, rempli de sagesse, a pris sur lui le poids de notre condamnation. Et par ce geste, par la résurrection de ce Fils, tu as fait de nous des êtres nouveaux. Lorsqu'on s'avance vers toi avec foi, lorsque toute notre confiance est en toi pour être ce que tu nous demandes d'être, non pas nous-mêmes, mais c'est toi, Seigneur, qui le remplis en nous. Et maintenant, notre défi est de nous efforcer ensemble de pouvoir te rassembler sous le coup de ta grâce divine. Seigneur, nous ne voulons pas être paresseux dans nos paroles. Nous voulons que nos paroles respirent ta sagesse. Nous voulons que nos paroles soient empreintes de toi. Mais on ne pourra cela, Seigneur, que lorsqu'on va s'avancer vers toi, prendre du temps avec toi. Apprends-nous à être ce que tu es, en demeurant en toi. Nous voulons nous courber devant toi et mettre ce projet de sagesse pour ton Église entre tes mains. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.